La faute de l'abbé Mouret, chapitre 16. Cette évocation des grands bonheurs de sa jeunesse avait donné une légère fièvre à l'abbé Mouret. Il ne sentait plus le froid. Il lâcha les pincettes, s'approcha du lit comme s'il allait se coucher, puis revint appuyer son front contre une vitre, regardant la nuit, sans voir. Était-il donc malade qu'il éprouvait ainsi une langueur des membres, tandis que le sang lui brûlait les veines? Au séminaire, à deux reprises, il avait eu des malaises semblables, une sorte d'inquiétude physique qui le rendait très malheureux. Une fois même, il s'était mis au lit avec un gros délire. Puis il songea à une jeune fille possédée que frère Archangias racontait avoir guérie d'un simple signe de croix un jour qu'elle était tombée raide devant lui. Cela le fit penser aux exercices spirituels qu'un de ses maîtres lui avait recommandés autrefois. La prière, la confession générale, la communion fréquente, le choix d'un directeur sage ayant un grand empire sur l'esprit de son pénitent. Et sans transition, avec une brusquerie qui l'étonna lui-même, il aperçut au fond de sa mémoire la figure ronde d'un de ses anciens amis, un paysan, enfant de cœur à 8 ans, dont la pension au séminaire était payée par une dame qui le protégeait. Il riait toujours. Il jouissait naïvement à l'avance des petits bénéfices du métier. Les 1200 francs d'appointement, le presbytère au fond d'un jardin, les cadeaux, les invitations à dîner, les menus profits des mariages, des baptêmes, des enterrements. Celui-là devait être heureux dans sa cure. Le regret mélancolique que lui apportait ce souvenir surprit le prêtre extrêmement. N'était-il pas heureux lui aussi? Jusqu'à ce jour, il n'avait rien regretté, rien désiré, rien envié. Et même en ce moment, il s'interrogeait. Il ne trouvait en lui aucun sujet d'amertume. Il était, croyait-il, tel qu'au premier temps de son diaconat, lorsque l'obligation de lire son bréviaire à des heures déterminées avait empli ses jours, ses journées d'une prière continue. Depuis cette époque, les semaines, les mois, les années coulaient sans qu'il eût le loisir d'une mauvaise pensée. Le doute ne le tourmentait point. Il s'anéantissait devant les mystères qu'il ne pouvait comprendre. Il faisait aisément le sacrifice de sa raison qu'il dédaignait. Au sortir du séminaire, il avait eu la joie de se voir étranger parmi les autres hommes, de ne plus marcher comme eux, de porter autrement la tête, d'avoir des gestes, des mots, des sentiments, d'être à part. Il se sentait féminisé, rapproché de l'ange, lavé de son sexe, de son odeur d'homme. Cela le rendait presque fier de ne plus tenir à l'espèce, d'avoir été élevé pour Dieu, soigneusement purgé des ordures humaines par une éducation jalouse. Il lui semblait encore être demeuré pendant des années dans une huile sainte qui lui avait pénétré les chairs d'un commencement de béatification. Certains de ses organes avaient disparu, dissous peu à peu. Ses membres, son cerveau, s'étaient appauvris de matière pour s'emplir d'âme, d'un air subtil qui le grisait parfois d'un vertige, comme si la terre lui eût manqué brusquement. Il montrait des peurs, des ignorances, des candeurs de filles cloîtrées. Il disait parfois en souriant qu'il continuait son enfance, s'imaginant être resté tout petit, avec les mêmes sensations, les mêmes idées, les mêmes jugements. Ainsi, à 6 ans, il connaissait Dieu autant qu'à 25 ans. Il avait pour le prier des inflexions de voix semblables, des joies enfantines à joindre les mains bien exactement. Le monde lui semblait pareil au monde qu'il voyait jadis lorsque sa mère le promenait par la main. Il était né prêtre, il avait grandi prêtre. Lorsqu'il faisait preuve devant la teuse de quelque grossière ignorance de la vie, elle le regardait stupéfaite entre les deux yeux en disant avec un singulier sourire qu'il était bien le frère de Mademoiselle Désirée. Dans son existence, il ne se rappelait qu'une secousse honteuse. C'était pendant ses derniers 6 mois de séminaire, entre le diaconat et la prêtrise. On lui avait fait lire l'ouvrage de l'abbé Cresson, supérieur du grand séminaire de Valence, « De rebus veneries ad usum confessariorum ». Il était sorti épouvanté, sanglotant de cette lecture. Cette casuistique savante du vice étalant l'abomination de l'homme, descendant jusqu'aux cas les plus monstrueux des passions hors nature, violait brutalement sa virginité de corps et d'esprit. Il restait à jamais sali, comme une épouse initiée d'une heure à l'autre aux violences de l'amour. Et il revenait fatalement à ce questionnaire de honte chaque fois qu'il confessait. Si les obscurités du dogme, les devoirs du sacerdoce, la mort de tout libre arbitre le laissaient serein, heureux de n'être que l'enfant de Dieu, il gardait malgré lui l'ébranlement charnel de ses saletés qu'il devait remuer. Il avait conscience d'une tâche ineffaçable, quelque part, au fond de son être, qui pouvait grandir un jour et le couvrir de boue. La lune se levait derrière les garrigues. L'abbé Mouret, que la fièvre brûlait davantage, ouvrit la fenêtre, s'accouda pour recevoir au visage la fraîcheur de la nuit. Il ne savait plus à quelle heure exacte il avait pris ce malaise. Il se souvenait pourtant que, le matin, en disant sa messe, il était très calme, très reposé. Ce devait être plus tard, peut-être pendant sa longue marche au soleil ou sous le frisson des arbres du Paradou ou dans l'étouffement de la basse-cour de Désiré. Et il revécut la journée. En face de lui, la vaste plaine s'étendait, plus tragique sous la pâleur oblique de la lune. Les oliviers, les amandiers, les arbres maigres faisaient des taches grises au milieu du chaos des grandes roches jusqu'à la ligne sombre des collines de l'horizon. C'étaient de larges pans d'ombre, des arêtes bossuées, des mares de terre sanglante où les étoiles rouges semblaient se regarder, des blancheurs crayeuses pareilles à des vêtements de femmes rejetés, découvrant des chairs noyées de ténèbres, assoupies dans les enfoncements des terrains. La nuit, cette campagne ardente prenait un étrange vautrement de passion. Elle dormait débraillée, déhanchée, tordue, les membres écartés, tandis que de gros soupirs tièdes s'exhalaient d'elle, des arômes puissants de dormeuses en sueur. On eût dit quelque forte cybelle tombée sur l'échine, la gorge en avant, le ventre sous la lune, sous le désardeur du soleil et rêvant encore de fécondation. Au loin, le long de ce grand corps, l'abbé Mouret suivait des yeux le chemin des olivettes, un mince ruban pâle qui s'allongeait comme le lacet flottant d'un corset. Il entendait frère Archangias relevant les jupes des gamines qu'il fouettait au sang, crachant au visage des filles, puant lui-même l'odeur d'un bouc qui se serait jamais satisfait. Il voyait la Rosalie rire en dessous de son air de bête lubrique, pendant que le père Bambous lui jetait des mottes de terre dans les reins. Et là encore, croyait-il, il était bien portant, à peine chauffé à la nuque par la belle matinée. Il ne sentait qu'un frémissement derrière son dos, ce murmure confus de vie qu'il avait entendu vaguement dès le matin au milieu de sa messe, lorsque le soleil était entré par les fenêtres crevées. Jamais, comme à cette heure de nuit, la campagne ne l'avait inquiété avec sa poitrine géante, ses ombres molles, ses luisants de peau ambrée, toute cette nudité de déesse à peine cachée sous la mousseline argentée de la lune. Le jeune prêtre baissa les yeux, regarda le village des Arteaux. Le village s'écrasait dans le sommeil lourd de fatigue, dans le néant que dorment les paysans. Pas une lumière. Les masures faisaient des tas noirs que coupaient les raies blanches des ruelles transversales, enfilées par la lune. Les chiens eux-mêmes devaient ronfler au seuil des portes closes. Peut-être les Arteaux avaient-ils empoisonné le presbytère de quelque fléau abominable. Derrière lui, il écoutait toujours grossir le souffle dont l'approche était si pleine d'angoisse. Maintenant, il surprenait comme un piétinement de troupeau, une volée de poussière qui lui arrivait grâce des émanations d'une bande de bêtes. Ses pensées du matin lui revenaient sur cette poignée d'hommes recommençant les temps, poussant entre les rocs pelés ainsi qu'une poignée de chardons que les vents ont semés. Il se sentait assisté à l'éclosion lente d'une race. Lorsqu'il était enfant, rien ne le surprenait, ne l'effrayait davantage que ces myriades d'insectes qu'il voyait sourdre de quelques fentes quand il soulevait certaines pierres humides. Les Arteaux, même endormis, éreintés au fond de l'ombre, le troublaient de leur sommeil dont il retrouvait l'haleine dans l'air qu'il respirait. Il n'aurait voulu que des roches sous sa fenêtre. Le village n'était pas assez mort. Les toits de chaume se gonflaient comme des poitrines. Les gerçures des portes laissaient passer des soupirs, des craquements légers, des silences vivants, révélant dans ce trou la présence d'une portée pullulante sous le bercement noir de la nuit. Sans doute, c'était cette senteur seule qui lui donnait une nausée. Souvent, il l'avait pourtant respirée aussi forte, sans éprouver d'autre besoin que de se rafraîchir dans la prière. Les tempes en sueur, il alla ouvrir l'autre fenêtre, cherchant un air plus vif. En bas, à gauche, s'étendait le cimetière avec la haute barre du solitaire, dont pas une brise ne remuait l'ombre. Il montait du champ vide une odeur de prés fauchés. Le grand mur gris de l'église, ce mur tout plein de lézards plantés de giroflées, se refroidissait sous la lune, tandis qu'une des larges fenêtres luisait, les vitres pareilles à des plaques d'acier. L'église endormie ne devait vivre à cette heure que de la vie extra-humaine du dieu de l'hostie enfermé dans le tabernacle. Il songeait à la tache jaune de la veilleuse, mangée par l'ombre, avec une tentation de redescendre pour soulager sa tête malade au milieu de ces ténèbres pures de toute souillure. Mais une terreur étrange le retint. Il crut tout d'un coup, les yeux fixés sur les vitres allumées par la lune, voir l'église s'éclairer intérieurement d'un éclat de fournaise, d'une splendeur de fête infernale, où tournaient, le mois de mai, les plantes, les bêtes, les filles des arteaux qui prenaient furieusement des arbres entre leurs bras nus. Puis, en se penchant au-dessous de lui, il aperçut la basse cour de Désiré, toute noire, qui fumait. Il ne distinguait pas nettement les cases des lapins, les perchoirs des poules, la cabane des canards. C'était une seule masse tassée dans la puanteur, dormant de la même haleine pestilentielle. Sous la porte de l'étable, la senteur aigre de la chèvre passait. Pendant que le petit cochon, vautré sur le dos, soufflait grassement près d'une écuelle vide. De son gosier de cuivre, le grand coq fauve Alexandre jeta un cri qui éveilla au loin, un à un, les appels passionnés de tous les coqs du village. Brusquement, l'abbé Mouret se souvint. La fièvre dont il entendait la poursuite l'avait atteint dans la basse cour de Désiré, en face des poules chaudes encore de leur ponte et des mères lapines s'arrachant le poil du ventre. Alors, la sensation d'une respiration sur son cou fut si nette qu'il se tourna pour voir enfin qui le prenait ainsi à la nuque. Et il se rappela Albine, bondissant hors du paradou, avec la porte qui claquait sur l'apparition d'un jardin enchanté. Il se la rappela, galopant le long de l'interminable muraille, suivant le cabriolet à la course, jetant des feuilles de bouleau au vent comme autant de baisers. Il se la rappela encore au crépuscule, qui riait des jurons de frère Archangias, les jupes fuyant au ras du chemin, pareil à une petite fumée de poussière roulée par l'air du soir. Elle avait 16 ans. Elle était étrange avec sa face un peu longue. Elle sentait le grand air, l'herbe, la terre. Et il avait d'elle une mémoire si précise qu'il revoyait une égratignure à l'un de ses poignets souples, rose sur la peau blanche. Pourquoi donc riait-elle ainsi en le regardant avec ses yeux bleus? Il était pris dans son rire comme dans une onde sonore qui résonnait partout contre sa chair. Il la respirait, il l'entendait vibrer en lui. Oui, tout son mal venait de ce rire qu'il avait bu. Debout au milieu de la chambre, les deux fenêtres ouvertes, il resta grelottant, pris d'une peur qui lui faisait cacher la tête entre les mains. La journée entière aboutissait donc à cette évocation d'une fille blonde, au visage un peu long, aux yeux bleus, et la journée entière passait par les deux fenêtres ouvertes. C'était au loin la chaleur des terres rouges, la passion des grandes roches, des oliviers poussés dans les pierres, des vignes tordant leurs bras au bord des chemins. C'était plus près les sueurs humaines que l'air apportait des arteaux, les senteurs fades du cimetière, les odeurs d'encens de l'église, perverties par des odeurs de filles aux chevelures grasses. C'était encore des vapeurs de fumier, la buée de la basse-cour, les fermentations suffocantes des germes. Et toutes ces haleines affluaient à la fois en une même bouffée d'asphyxie si rude, s'enflant avec une telle violence qu'elle l'étouffait. Il fermait ses sens, il essayait de les anéantir. Mais devant lui, Albine reparut comme une grande fleur poussée et embellie sur ce terreau. Elle était la fleur naturelle de ses ordures, délicate au soleil, ouvrant le jeune bouton de ses épaules blanches, si heureuse de vivre qu'elle sautait de sa tige et qu'elle s'envolait sur sa bouche en le parfumant de son long rire. Le prêtre poussa un cri. Il avait senti une brûlure à ses lèvres. C'était comme un jet ardent qui avait coulé dans ses veines. Alors, cherchant un refuge, il se jeta à genoux devant la statuette de l'Immaculée Conception en criant, les mains jointes, « Sainte Vierge des Vierges, priez pour moi !»